France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Il est un homme tout en douleur et silence dans le spectaculaire film Sirate. Sergi Lopez sera mon invité à partir de 13h. Mais d'abord, chose promise, deux nouvelles séries passent entre les mâchoires acérées de nos critiques. La saison 2 de la série historique britannique Wolf Hall, ça c'est sur Arte, et Alien Earth sur Disney+, qui fait débarquer les monstres de l'espace sur Terre. Vous écoutez les Midis de Culture et je suis sûre que c'est bon pour le karma. Et les loups de la critique, aujourd'hui je vous les présente, Olivier Joyard, critique et réalisateur.
Bonjour Marie.
Bonjour Charles Bosson, critique, essayiste et documentariste.
Bonjour Marie.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. On commence ce plateau avec une première, et même deux premières d'ailleurs. Les aliens descendent sur Terre et les aliens deviennent des personnages de série, il fallait s'y attendre. Cette série c'est donc Alien Earth et c'est Disney qui est aux commandes. La création et l'écriture ont été confiées à Noah Hawley, à qui on doit l'anthologie Fargo, un autre passage d'un film culte du grand au petit écran. Enfin à la tablette, enfin au téléphone ou que sais-je. Nous sommes donc en 2120 et les amateurs du tout premier Alien, le 8e passager, auront fait le calcul. C'est 2 ans avant les aventures horrifiques du Nostromo et de son équipage. En 2120 donc, la Terre et l'espace sont dominés par une poignée de multinationales et un vaisseau s'écrase sur la Terre, libérant son chargement monstrueux. Je m'arrête là et je vais vous passer la parole d'abord pour quelques mots avant de développer Olivier Joyard.
Je dirais que je me suis dit en voyant la série que le manque d'imagination hollywoodien avait encore frappé un certain point de vue, c'est-à-dire la réactivation d'un univers comme vous venez de le décrire qui existe déjà. C'est ce qu'on appelle les franchises. Alors, il y a des bonnes et des mauvaises franchises, disons. Et on peut voir la série un peu sous ce spectre, hein, c'est-à-dire celui d'un créateur qui est Noah Hawley, qui a tellement la conscience de venir après, comme, je dirais, un maniériste, quoi, en peinture, qui passe son temps à appuyer ses effets et à gesticuler pour démontrer un peu son ambition et sa modernité. C'est pas forcément mauvais en soi, mais c'est un peu compliqué à aimer.
Charles Bosson.
Alors moi, au contraire, je suis très enthousiasmé. Je pense que c'est une série qui vraiment m'a gagné sur le temps. J'étais un peu sceptique au début, mais je pense qu'elle aurait vraiment gagné à s'appeler Neverland, qui était son titre original, et pas Alien Earth, qui serait assez décevant.
Alors, on va écouter tout de suite la bande-annonce de Alien Earth avant de développer ses critiques.
This ship collected specimens. 5 new life forms from distant planets. Monsters.
Si on ne les enferme pas, ce sera trop tard.
Alien Earth sur Disney+. Olivier Joyard, moi j'ai déjà une question, c'est est-ce que ça fait peur? Parce qu'Alien, normalement, ça fait peur.
Moi, ça m'a fait peur.
C'est
et c'est plutôt ce que j'ai aimé. Donc, je commence par ce que j'ai
Parfait.
Aimé. Parce que c'est... J'ai le sentiment que, finalement, la force de la série, ce serait sa fidélité à l'univers original. Et en tous les cas, au fait qu'elle ne recule pas devant les chairs en danger, les amas sanguinolents, et ces petites bêtes-là qui sont extrêmement dangereuses et qui, donc, s'écrasent sur Terre. Enfin, un vaisseau s'écrase sur Terre et il contient des spécimens un peu étranges. Donc, c'est vraiment, moi, ce que j'ai préféré dans la série, c'est-à-dire son ambition de ne pas être simplement une série de réflexions, je dirais, un peu philosophiques sur l'état du monde, puisque c'est quand même ce sous-jacent, ce qui se joue, je pense, dans Alien Earth.
Voilà, moi, je n'ai pas du tout expliqué ça, mais il y a effectivement cette histoire de monstre, mais il y a quand même tout un sous-texte sur le transhumanisme, voilà, il y a tout ça.
Ouais. C'est pas ce qui m'a vraiment le plus convaincu. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la fois en terrain connu et les xénomorphes, donc c'est ces créatures à grande gueule comme ça et ces dents acérées, les couloirs très sombres, vraiment quelque chose de presque du copier-coller avec l'original, en tout cas des années 70. Mais en même temps, on est complètement dans une série des années 2010, c'est-à-dire adulte, hein, ambitieuse, avec d'intenses préoccupations et beaucoup de moyens. peut-être pas 33 milliards, mais en tout cas quelques millions. Et je vois bien ce qu'essaye de faire Noah Hawley, c'est-à-dire de mêler un univers... Bah, qui sont les monstres aujourd'hui? C'est de poser cette question. Est-ce que les monstres, c'est vraiment les sales bêtes? Est-ce que finalement, ce serait pas ce personnage de milliardaire un peu... post-adolescent qui hante le récit comme ça, qui arrive et qui fait son sketch pendant quelques minutes à chaque fois. Donc moi j'ai beaucoup j'étais assez sceptique finalement sur la destination de la série. Je la préfère primitive, je l'aime un peu moins quand elle essaie de réfléchir un peu trop.
Charles Bosson, c'est l'inverse, c'est plutôt au début oui. Ça vient pas et puis ça s'est installé.
En fait, je comprenais pas exactement où il allait. Je pense que la grande force de Noah Hawley depuis le début, c'est un peu de parasiter, de snatcher les univers des autres. Légion, c'était l'univers X-Men. Et puis Fargo, c'était quand même assez improbable de prendre un film parfait et puis de le démonter, de le désosser. C'est quelqu'un qui est hyper à l'aise avec le rythme en épisode et qui tout à coup va vraiment comme un enfant démonter les pièces et jouer. Et voilà, j'ai pris un moment à comprendre où est-ce qu'il allait. Et en fait, c'est vraiment avec cette espèce d'hybridation avec le thème de Peter Pan, alors qui est très souligné, hein, c'est pas subtil, mais ce personnage donc de petit génie autoproclamé, hein, de la tech, un peu à la Elon Musk, qui est joué par Samuel Blenkin, est vraiment une sorte de Peter Pan moderne, mais comme le personnage du roman original de James Matthew Barry, qui est vraiment une sorte de petit tyran, c'est-à-dire que Peter Pan, il faut vraiment se rappeler, c'est un personnage très très compliqué, vraiment qui ne supporte pas qu'on soit plus intelligent que lui ou qu'on grandisse, et qui dans le livre fait disparaître, tue les personnages qui vraiment essayent de s'échapper de cette enfance forcée, qui est une assez belle image finalement quand même de l'Amérique contemporaine. Et je trouve que le thème de Peter Pan, voilà, s'étend, puisque Peter Pan a besoin de quoi? De pirates. Et en fait, on est entouré de pirates. Les aliens, ce sont des corps qui viennent violer le corps humain, viennent en prendre possession, viennent le pirater. Et puis, il y a cette espèce d'ombre aussi dans Peter Pan, une sorte de zone d'ombre, qui est vraiment l'autochtone, les Indiens, les peaux rouges, quelque chose de très raciste dans le roman original. Et Alien est par définition, avec ces hiéroglyphes qui apparaissent au début, une sorte d'étranger absolu. C'est-à-dire le xénomorphe, c'est la forme de l'autre, c'est vraiment l'étranger parfait, et il est pris comme ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cet étranger qui tout à coup vient, qui tout à coup nous rencontre, et toute la réflexion de la série est sur les corps transitionnels entre le mutant, le monstre, l'humain et la machine. Et là-dessus, je trouve que la série a une très grande force et trouve vraiment son identité par rapport au film de 1979.
Olivier Joya.
Alors il y a eu quand même 7 films en tout, quoi, série amalgame aussi d'autres imaginaires du... Je suis vraiment pas d'accord sur l'incarnation, c'est-à-dire que c'est précisément ce qui m'a manqué dans la série, c'est-à-dire que ce rapport au corps dont vous venez de parler, il est pour moi presque gâché par le discours qui va au-dessus, c'est-à-dire que il est quand même question, c'est un peu complexe, mais le personnage principal s'appelle Wendy, enfin un des personnages principaux, mais ils ont celle dont on est censé suivre vraiment la trace. Ça a été une enfant malade de façon terminale qui a été entre guillemets sauvée par ce milliardaire qui lui a injecté je ne sais quoi et qui l'a transformée en hybride et en adulte. Enfin, elle a une apparence adulte, une âme d'enfant. Donc il y a beaucoup de choses effectivement qui se jouent autour de cette idée de l'enfance et des monstres, moi qui me passionne évidemment, et que je trouve qu'il y a une grande idée de littérature, de cinéma depuis très très longtemps, et qui ici, justement cette hybridation-là, donc qui est le discours principal de la série, qu'est-ce qu'on devient quand notre corps s'hybride, se transforme, se change, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est queer, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est mortifère au contraire, ça me semble totalement annihilé en fait par le manque de rapport sensuel en fait à ces personnages qu'a Noah Hawley. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que c'est plutôt le métallique qui gagne à chaque fois, c'est-à-dire ces plans extrêmement... C'est assez contemplatif comme série, ça reste vraiment comme ça, je dirais, subjugué par les machines, quoi.
Et les monstres.
Ouais, c'est ça. Mais les monstres, ils sont censés quand même être une sorte de ils ont pas vraiment d'âme, mais ils sont du pur primitif. Il y a quelque chose là-dedans qui pourrait, encore une fois, il y a du gore, il y a plein de choses qui m'ont assez plu. Mais cette idée d'être, je dirais, sexué, sensuel, quelque chose qui puisse se passer vraiment à l'intérieur des corps, auquel on pourrait avoir accès. Moi, j'ai pas eu accès avec cette série.
Moi, je me suis demandé à qui elle s'adressait, en fait.
Moi, je pense vraiment aux fans de l'univers Alien,
vraiment
un public assez jeune.
Ouais.
Sidney Chandler, qui joue Wendy, est vraiment exceptionnel. Son frère, joué par Alex Losser, qu'on a vu dans The End of the Fucking World, qui est un acteur vraiment remarquable. Et puis, il y a une espèce de de fascination pour le gore, les petites bêtes numériques, puisque les passagers du Maginot, donc il s'appelle plus le Nostromo mais le Maginot, qui dans l'imaginaire collectif est quand même un synonyme d'une ligne de la défaite, arrivent avec plusieurs espèces étrangères. Et c'est là que quand même l'imagination de Noah Hawley est très forte et qu'on sent que progressivement il se fascine non plus tellement pour ses personnages, mais pour ses petites créatures. Et il y en a une qui est absolument extraordinaire, qui est une espèce de globule d'œil, petit œil avec des tentacules. Et alors, il vous saute au visage, il vous arrache un œil, et puis ces tentacules pénètrent la boîte crânienne, viennent vous masser le crâne et prennent possession de vous. Et j'ai trouvé que dans cet imaginaire-là, très entomologique, la série, tout à coup, avait vraiment son identité visuelle. Et c'est là-dessus que j'ai vu beaucoup les fans et les gens réagir.
Est-ce qu'on retrouve... Ah oui,
mais c'est intéressant, cette petite pieuvre à multifacettes, quoi, des yeux multifacettes.
Parce que c'est animaux et humains.
Ouais, c'est ça, mais c'est presque une métaphore de la série qui essaie d'avoir tellement de points de vue et une vision comme ça panoptique mélangée. Et ça devient, quand on voit à travers le point de vue de cette bestiole, finalement, la réalité est complètement distordue. Donc, c'est des moments qui sont vraiment intéressants, mais qui me semblent un peu isolés du reste, quoi. Et par ailleurs, sur cette idée, encore une fois, du corps, Ellen Ripley était quand même une réflexion sur la maternité, sur la féminité, qui était, je trouve, assez magistrale, même si un peu old school, mais ça reste quand même une icône et quelque chose de vraiment marquant. Là, je ne retrouve pas trop cet esprit-là dans la série.
Est-ce qu'on retrouve cet univers très important du plasticien qui était à l'œuvre au tout départ des Aliens, Geiger, hein, c'est ça ?
Oui, bien sûr, et qui est vraiment un artiste à l'imaginaire très heavy metal. Oui. Et d'ailleurs, chaque épisode se termine par un titre d'un groupe de métal. Et la bête alien est la bête métal par excellence. C'est-à-dire, littéralement, ce sont des métaux lourds, ces bestioles. Et oui, je trouve que vraiment, on essaie de rivaliser avec cet imaginaire-là, très Lovecraftien aussi. Mm-hmm. Et je pense que c'est ça la force aussi de cet imaginaire, c'est d'arriver à tirer, de se confronter à ce géant qui était Geiger, et d'apporter quand même un regard sur l'hybridation, la mutation à travers ces petites bêtes, dans un univers de scientifiques sous cloche, un peu dans l'esprit de The Thing, de John Carpenter, auquel moi j'ai beaucoup pensé. Je pense aussi à L'Homme Invisible de Paul Verhoeven, et on pense même à Jurassic Park, avec vraiment cette idée de vouloir se voler des espèces. Donc je pense qu'on déporte effectivement ce thème passionnant d'une sorte de maternité très problématique qu'avait le personnage de Sigourney Weaver, vers ce thème justement d'une science dépassée.
Un dernier mot.
C'est moi qui me suis senti un peu dépassé par cette ultra-ambition de la série, parce qu'en fait, ce que j'aime le plus, c'est cet épisode 5, qui est une sorte d'épisode presque capsule, c'est-à-dire qui revient aux raisons qui ont fait que le vaisseau s'est crashé sur la Terre. Donc c'est peut-être un épisode moins 1,
Ouais, c'est pas mal,
d'une certaine façon. Et là, moi j'aime beaucoup, parce que là on est dans le pur genre, presque la série B, et le maniérisme devient un exercice de style, d'hommage, de tension, qui là m'enthousiasme. Pour le reste, j'ai l'impression que la philosophie de Noah Hawley, je la préférais dans Legion, qui était sa série peut-être un hommage aux X-Men, mais qui était sur la schizophrénie, sur un personnage complètement... vraiment taré, en fait, qui voyait la réalité d'une façon complètement folle. Et ça, c'était, un exercice de style un peu plus grandiloquent encore, qui, dans l'outrance, en fait, je le trouve meilleur.
Donc, c'était Alien Earth, et c'est disponible en ce moment sur Disney+.